et bienvenue dans La Vie Libre, l'émission de l'association Picassoft qui s'est donnée pour mission d'héberger des services libres et respectueux de la vie privée, de sensibiliser les citoyens et les citoyennes aux enjeux du numérique et à une approche libre, éthique et inclusive des technologies numériques. Aujourd'hui, on va parler de contribution au logiciel libre et au libre de façon générale. Et pour ça, je suis avec Romain et Tobias de Picassoft. Salut à vous.
Salut Audrey.
Salut Audrey.
On va voir aujourd'hui en quoi la contribution est au cœur du libre. Et puis, on va essayer de vous montrer ensemble comment chacun peut y trouver sa place en fonction de ce qu'il ou elle aime faire. Vous allez voir, comme on le dit pour le logiciel libre, ça ne concerne pas que du code. Alors, en tout premier, pour vous, ça veut dire quoi la contribution? On peut démarrer par là. Quelle définition on pourrait donner de la contribution en général?
La définition assez générale qu'on peut donner déjà, c'est ajouter sa pierre à l'édifice. Donc autrement dit, c'est participer à une œuvre commune. Et dans le logiciel libre, la contribution, en fait, c'est la contrepartie à l'utilisation de ce logiciel libre. Parce que là où un logiciel privateur, en fait, va demander une contrepartie qui peut être financière, la vente de nos données ou nous montrer des publicités, parfois tout en même temps, le logiciel libre, il va vivre en fait par sa communauté et la contribution de chacun des utilisateurs au logiciel libre. Et en général, quand on pense à la contribution pour un logiciel libre, ou pour un logiciel en général, on va immédiatement penser à en fait celui qui va coder, celui qui va rentrer des lignes de code ou parler en quelque sorte à l'ordinateur afin d'avoir un logiciel qui va fonctionner. Mais en réalité, derrière le logiciel, il y a en fait plein de monde et plein de corps de métier. Et en fait, c'est toute une communauté qui est derrière et il faut établir par exemple des chartes graphiques, dessiner des logos, créer des sons, mais aussi soutenir financièrement, donner de son temps. Et du coup, il y a plein de manières de contribuer à un logiciel libre.
D'accord, ok. Et alors après, au-delà de l'utilité même, on peut dire qu'on peut trouver un certain plaisir à contribuer et puis que c'est très utile aussi pour soi. Alors pour vous, pourquoi contribuer? Quels sont les arguments pour donner envie de le faire? Et puis, personnellement, quand vous avez pu être amené à contribuer, qu'est-ce que ça vous a apporté?
Effectivement, pourquoi contribuer? J'ai envie de dire, dans un premier temps, effectivement, pour le plaisir. Et ce plaisir, il est très varié et diversifié. C'est le plaisir d'avoir, de savoir qu'on a pu partager une partie de nos connaissances avec d'autres personnes. C'est le plaisir d'avoir un logiciel qui est plus adapté à ses besoins. Par exemple, quand je vais contribuer à OpenStreetMap, je vais cartographier la carte qui se trouve directement autour de chez moi. Et si bien que dans les fois suivantes, je vais être en mesure d'avoir une carte plus précise, si je vais pouvoir cartographier mon adresse exacte, et comme ça, je pourrais dire aux gens, tu cherches sur OpenStreetMap et tu trouveras forcément mon adresse. Ça peut être le plaisir de faire partie d'une communauté et de participer ensemble à construire quelque chose de plus grand. Et de nouer des liens. Par exemple, donc là, quand on a déjà parlé dans une précédente émission de la monnaie libre, mais on contribue tous ensemble à essayer de créer un modèle de société et quelque chose. Mais en tout cas, ça nous permet de découvrir des nouvelles personnes et de créer des liens comme ça. Et c'est bien sûr une manière de soutenir notre vision des choses, de dire que que les logiciels libres sont des communs et que du coup on a plaisir à y contribuer pour qu'ils soient toujours plus fournis, plus divers et plus performants.
Oui, absolument, c'est ça. C'est-à-dire que d'une part, on soutient un modèle de société plus globalement et puis en plus, ça permet, comme tu le dis, de se réapproprier justement ces logiciels, ces services en participant à leur évolution. On peut se demander donc, concrètement, comment commencer à contribuer? Alors, on va essayer de vous faire une petite piste sympa pour que vous puissiez piocher dans ce qui peut vous plaire le plus pour commencer. Mais la toute première contribution, on pourrait dire que ça pourrait être d'abord de dire non à un logiciel privateur, c'est-à-dire de commencer par changer ses propres habitudes. Commencer par quelques refus occasionnels, dire « non, cette fois-ci, je n'ai pas envie d'utiliser telle application propriétaire. Viens avec moi, on tente plutôt cette alternative libre. » Et ainsi, commencer par des refus occasionnels et petit à petit refuser systématiquement d'utiliser des logiciels privateurs. Alors, cette idée-là Elle est bien expliquée, bien exposée dans un article qui s'appelle donc une aide. C'est un article de Richard Stallman sur le site nu.org. C'est Stéphane qui nous avait suggéré ça dans l'applicative. Mais alors, c'est un très très un article vraiment très intéressant à lire. On vous mettra le lien sur le site de la radio. Juste pour vous lire un petit extrait pour comprendre un petit peu l'idée, Richard Stallman écrit vous pouvez commencer par un premier pas et lorsque vous l'aurez réalisé, tôt ou tard, vous pourrez en faire un autre. En fin de compte, vous constaterez peut-être que vos habitudes ont changé et si vous vous habituez à dire non à un programme privateur, vous pourrez le faire la plupart du temps, peut-être même systématiquement. Non seulement vous aurez gagné en liberté, mais vous aurez également aidé votre communauté en lui faisant prendre conscience de cet enjeu. Donc en effet, lorsque on change ses habitudes et que humblement on essaie de commencer un petit peu autour de soi à changer les habitudes des personnes avec lesquelles on est en contact sur certains outils, eh bien c'est ainsi qu'on peut essayer de transformer les normes et puis la culture dominante pour là, en l'occurrence, promouvoir plutôt le modèle libriste. Et voilà, juste un petit dernier extrait, parce que cet article est vraiment super. Richard Stallman écrit, voilà, notre but final est la liberté numérique pour tous, un monde sans logiciel prédateur. Certains d'entre nous qui avons fait de la campagne pour la liberté numérique, qui ont fait de la campagne, pardon, pour la liberté numérique, notre but rejette tous les logiciels prédateurs. Toutefois, en pratique, même un petit pas dans cette direction est bon à prendre. Une marche d'un millier de kilomètres est faite de nombreux pas. Chaque fois que vous n'installez pas un logiciel privateur ou que vous décidez de ne pas l'utiliser ce jour-là, vous faites un pas vers votre propre liberté. Chaque fois que vous refusez d'utiliser un logiciel privateur avec d'autres, vous leur donnez un sage exemple de pensée à long terme. C'est un pas vers la liberté pour le monde. Donc voilà une idée, une aide qui compte, hein. C'est une première contribution qui peut paraître assez simple au départ, mais qui compte vraiment pour le monde du livre. Et ensuite, lorsque on souhaite, disons, s'investir davantage, qu'est-ce qu'on peut faire au-delà de cette première contribution?
Eh bien, on a établi, non, on n'a pas vraiment établi une petite liste, mais on s'est inspiré d'une petite liste et on a ajouté nos propres petits points dessus. C'est une liste qui vient du projet Funkwave, qui est un logiciel de streaming de musique libre et qui a établi en fait une liste des manières à contribuer au projet sur son site, donc contribute.funkwave.audio. On vous le mettra en lien. La première façon à laquelle on peut penser, c'est en parler autour de soi, puisqu'en fait, il faut faire la promotion du logiciel ou du service, puisque un logiciel privateur, lui, il va se permettre de payer des régies publicitaires afin de se faire connaître, mais un projet libre, il va compter sur le bouche à oreille, les utilisateurs qui vont partager le logiciel à leur entourage et ainsi faire grandir la communauté. C'est en fait ce qui va maintenir en vie au moins en partie le projet.
Ok, ouais, tout à fait. Alors, une autre manière de faire, ça peut être aussi d'essayer, alors quand on va utiliser un logiciel libre, eh bien, de tester l'utilisation pour essayer de trouver des bugs. Et alors ensuite, on peut aussi proposer des améliorations, mais c'est vrai qu'une première contribution qui aide vraiment les développeurs et les développeuses de logiciels libres, ça va être d'essayer de remonter des bugs, parce que justement, celles et ceux qui construisent ces logiciels n'ont pas toujours la possibilité de tout voir, tout simplement. Donc, lorsque on est exposé à certains bugs sur ces logiciels, une vraie aide peut être justement de proposer une manière de reproduire le bug, de contacter donc ceux qui participent au projet. Et puis, il existe même donc des outils dédiés, hein, on appelle ça les bug trackers ou alors voilà, des outils de rapport de bugs qui existent pour plusieurs logiciels et puis pour plusieurs forges de logiciels. Alors, par exemple, pour Mozilla, ça s'appelle Bugzilla et c'est par là qu'on peut exposer justement un bug qu'on aurait trouvé. Et ça, c'est une vraie contribution justement à l'évolution de ces logiciels et à leur amélioration. Après, au-delà du logiciel, on peut parler aussi de la contribution au contenu libre. Tobias, t'as une là-dessus?
Bah, effectivement, bah, comme je l'ai rapidement évoqué, par exemple pour la contribution à OpenStreetMap, on peut assez facilement aller sur des plateformes qui proposent des contenus libres. Donc, on a cité OpenStreetMap, vous connaissez bien entendu Wikipédia, mais il y a aussi un certain nombre de forums un peu moins connus, comme par exemple Cesse de Savoir. Peut-être si vous connaissez un peu l'association Framasoft, vous connaissez son annuaire Framalibre. Et donc, vous pouvez tout simplement rédiger des petites fiches, mettre en ligne des nouveaux articles, cartographier, vous pouvez mettre en ligne des nouvelles musiques. Mais il faut savoir que ce n'est pas forcément limité à ces plateformes pour autant. Puisque ne serait-ce qu'à partir du moment où vous publiez un contenu, vous pouvez aussi réfléchir à la licence de ce contenu et décider d'utiliser une licence libre pour ce contenu, de telle sorte que les personnes puissent ensuite plus facilement se les réapproprier, les modifier et en trouver d'autres utilisations et vraiment pleinement en profiter. Il y a aussi un certain nombre de projets un peu moins connus, comme qui propose d'ajouter des contenus qui ne sont pas du tout enfin qui ne sont pas du code informatique, mais vous avez par exemple des jeux vidéo qui vont vous proposer de rajouter des sons, de faire de la recherche historique sur le jeu vidéo, de rajouter des nouvelles quêtes, campagnes si c'est un jeu qui en propose. Vous pouvez aussi, il y a un projet Kaganat qui se propose de créer un jeu vidéo libre sur un univers et vous pouvez tout simplement contribuer à cet univers. Et vous pouvez aussi, donc là d'un point de vue plus proche du code, contribuer à des nouvelles icônes pour un logiciel, des designs d'interface, des choses comme ça.
Ouais, super, merci Tobias. Et puis, en effet, alors, je rebondis juste sur ce que tu disais par rapport à la contribution aux plateformes qui regroupent des contenus libres. C'est vrai que ça, c'est quelque chose d'assez facile, d'assez sympa à faire. Et puis, j'en profite pour faire un petit teasing sur une prochaine émission qu'on fera sur Libre Cours, Libre Culture, où en effet, pendant cette formation en ligne, les apprenantes ont été amenées à contribuer justement aux plateformes de contenu libre de leur choix. Et puis, ça fait découvrir justement des nouvelles sources de contenu. Et puis, c'est très sympa à faire. Donc, voilà, on vous en parlera dans une prochaine émission. Mais c'est vrai que contribuer à la culture libre, c'est en soi une très, très grande contribution en promouvant également les licences libres. Voilà, on en parlera un petit peu plus tard sur la voie libre. Alors, autre contribution également, ça peut être, justement, on parle de la voie libre de la radio, et eh bien, ça peut être de retranscrire des émissions de radio, des conférences, des vidéos, ou tout simplement de relire ces transcriptions pour essayer de trouver des coquilles, de reformuler des points, etc. L'April en particulier fait ça. L'April a un groupe de travail dédié aux transcriptions. Et l'objectif de ces transcriptions-là, comme c'est précisé sur leur site, eh bien, c'est de rendre les contenus audio-vidéo plus accessibles, de les rendre aussi plus facilement indexables, oui, plus facilement indexables vis-à-vis des moteurs de recherche. Ça permet également de réutiliser donc ces contenus en citant les sources plus facilement. Et puis, il y a également des activités de sous-titrage des vidéos. Et donc ça, voilà, ça permet de rendre du contenu plus accessible plus globalement et ça peut aussi être très très sympa à faire. Est-ce que tu as une autre idée pour contribuer?
Oui, totalement. Il y a aussi quelque chose à laquelle on peut penser, donc ça ne vient pas forcément tout de suite à l'esprit, mais c'est vrai que c'est pas mal de le faire, c'est la traduction. Puisque si on a un peu de connaissances en langue étrangère, ou alors qu'un projet n'est pas traduit dans notre langue d'usage, on peut proposer des nouvelles traductions pour le logiciel, et ça permet d'augmenter, parfois de manière considérable, en fait, le nombre potentiel d'utilisateurs du logiciel ou du service. Et en plus, ça permet à certaines personnes d'être plus à l'aise avec les outils qui seront en fait bien traduits dans leur langue. Et ça permettra de mieux apprécier ces logiciels ou ces outils. Donc c'est quelque chose qui est super cool à faire et ça aide beaucoup.
Effectivement, et puis pour continuer dans la liste, vous pouvez aussi échanger avec la communauté. Parce que, donc comme on le disait, un logiciel est basé sur une communauté, et donc il va y avoir, à partir du moment où on utilise régulièrement un logiciel, un outil, quelque chose, on va commencer à acquérir une expérience, une expertise dessus, mais qu'on peut tout à fait transmettre et partager avec les nouveaux arrivants. Donc par exemple, vous pouvez vous inscrire au forum d'un logiciel, si vous prenez une solution d'hébergement par exemple qui s'appelle Unohost, et bah vous allez avoir des gens, donc des gens qui ont une installation Unos depuis un certain temps expérimentée, qui sont présents sur un forum, et ce qui permet aux nouveaux venus d'avoir des réponses à leurs questions, d'avoir un accès beaucoup plus simple à des logiciels qui peuvent des fois être un peu complexes. Où vous pouvez aussi rédiger des tutoriels, des exemples, des.
Ouais, bah, tout à fait. C'est-à-dire que dans l'idée d'accompagner la prise en main de certains logiciels et services pour les nouveaux arrivants sur ces utilisations-là, eh bien l'idée de construire des tutoriels, d'y participer, c'est une super contribution. Donc participer à la documentation d'un service, par exemple, pour partager aussi ses bonnes pratiques, hein. Et puis après, on adapte en fonction de ses compétences et puis du temps qu'on souhaite y consacrer. Mais par exemple, on peut bien soit créer des sections entières dans la documentation, ou alors juste rédiger ou mettre à jour un paragraphe, ou bien toujours comme dans la transcription, partir à la recherche du copy, ça marche aussi. Mais voilà, on adapte en fonction du temps et puis de ses compétences. Et à propos de compétences, bien sûr, on va quand même pas parler de contribution sans un petit peu de code tout de même. Romain, est-ce que tu sais comment on peut faire pour participer au développement de logiciels libres?
Ouais, alors, ouais, c'est la dernière chose qui. Ben, non, la première chose en réalité qui vient à l'esprit, mais la dernière chose dans notre liste, puisqu'on est. En fait, on est monté en grade dans les compétences qu'il fallait avoir, c'est le fait de coder, de participer au code du logiciel. Et attention, là, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des compétences en code, hein, ça peut toujours aider, mais. On peut, par exemple, suivre les issues sur un logiciel, donc c'est-à-dire. Des problèmes que certains rencontraient, ou alors des propositions de nouvelles fonctionnalités, ou les propositions d'amélioration d'un logiciel. Ce qu'on peut faire, c'est réviser le code, par exemple, les soumissions d'autres personnes. On peut aussi trouver un problème ouvert et puis l'aborder. On peut demander, par exemple, si on peut aider à écrire une nouvelle fonctionnalité pour un logiciel. On peut automatiser par exemple la configuration du logiciel. On peut améliorer tout ce qui est les outils afin de tester par exemple le logiciel aussi. Alors sur une plateforme de code comme GitHub ou comme GitLab, comment ça s'organise un peu cette contribution? Pour un projet open source typique, on a plusieurs catégories de personnes. On a déjà l'auteur, c'est la personne ou l'organisation qui a créé le projet. On a le propriétaire, c'est la personne ou les personnes qui ont la propriété administrative de l'organisation du dépôt. Ce n'est pas toujours les mêmes que l'auteur principal, il faut le savoir. On a les responsables, ça va être les collaborateurs qui vont être responsables de la vision et de la gestion des aspects organisationnels du projet. Ils peuvent être aussi les auteurs ou les propriétaires du projet. On va avoir les contributeurs, c'est tous ceux qui vont contribuer au projet, donc dans tous les sens du terme. Et on va enfin avoir les membres de la communauté, donc ça va être des personnes qui utilisent le projet et ces membres-là peuvent aussi être actifs dans les conversations ou exprimer leurs opinions sur la direction que va prendre en fait le projet. Afin d'aider à coder un logiciel, il y a des outils qui sont nécessaires, donc comme la documentation du projet, puis quelques fichiers de référence, comme par exemple le fichier README. Ils seront à utiliser pour connaître en fait l'organisation de la communauté et suivre un peu les bonnes pratiques de contribution pour le logiciel. On peut aussi aller se rendre tout simplement sur le site web du projet. Les outils principaux qui sont utilisés dans les projets open source et libres sont les outils de suivi des issues. Lorsque les gens discutent des issues liées au projet, par exemple, ils vont le faire sur ces outils de suivi. Et on a aussi un outil assez pratique qui s'appelle le pull request. Les gens vont en fait discuter et examiner des changements qui sont en cours, des changements qui ont été proposés du coup à l'auteur du logiciel. Il existe aussi parfois des forums et des listes de diffusion ou des outils de conversation synchrone pour échanger avec la communauté. Là, je vais vous renvoyer vers un lien qui est opensource.guide slash fr slash how-to-contribute. Donc, on remettra ça en lien.
Ouais, en effet, merci beaucoup Romain. Voilà, tout ce qu'on vous explique vient beaucoup de ce site là, donc on vous invite aussi à aller voir toutes ces explications pour savoir un petit peu comment vous y prendre, parce que on parlait des communs dans tes missions, et c'est vrai que ces contributions au développement s'organisent comme la gestion d'un commun. Il y a des règles de contribution, des bonnes pratiques, des personnes responsables de certaines actions ou décisions. Donc c'est vrai que c'est important, comme tu l'expliquais bien, Romain, de s'imprégner un petit peu de ce qui se fait dans la communauté autour d'un logiciel ou d'un service avant de s'engager là-dedans. Mais juste, voilà, c'est souvent très très bien défini, justement bien expliqué dans la documentation. Et puis, vous avez énormément de ressources pour commencer avec des premiers pas à la contribution au code. Alors, un dernier point tout de même, bien sûr, pour contribuer à certains logiciels et services libres, c'est la contribution financière, c'est le fait de soutenir financièrement justement les communautés qui rendent disponibles gratuitement ces logiciels, parce que c'est ce qu'on dit pour les logiciels libres, hein, c'est qu'ils sont gratuits parce qu'ils ont déjà été payés par le temps et par les ressources qui sont investies par les contributeurs et les contributrices au logiciel. Donc, l'utilisation, enfin, c'est pas parce que l'utilisation du logiciel est gratuite que sa production l'est, hein. Il faut bien sûr payer des moyens matériels, payer également des charges et puis parfois des professionnels qui peuvent y travailler à plein temps. Enfin, la contribution financière est une contribution très très importante sur laquelle repose bon nombre de logiciels, de services et puis de communautés, justement. Donc voilà, on a fait. Oh, Tobias, oui,
Et
excuse-moi.
je vais en profiter pour ajouter un tout petit truc. Et justement, en fait, l'idée, c'est qu'effectivement, le logiciel ou ces ressources vont vous être offertes gratuitement parce que l'auteur ou les contributeurs, contributrices qui auront développé ce logiciel, qui auront créé ce contenu, auront la volonté, effectivement, que ce soit partagé au plus grand nombre. Mais l'idée derrière, c'est de se dire, c'est que ensuite, de notre côté, on réfléchit à qu'est-ce que ce contenu, qu'est-ce que ce logiciel m'a apporté, m'a fait gagner comme temps, quelles sont mes ressources financières, et est-ce que finalement, il m'a pas fait gagner suffisamment de temps ou procurer suffisamment de plaisir ou n'importe quoi pour que j'envisage, au vu de mes ressources financières, d'y contribuer, ce qui permet en fait que chacun contribue à ses ressources communes à la mesure de ses moyens.
Oui, tu as raison, tout à fait. Et c'est le fait voilà, de soutenir une communauté, mais un modèle aussi plus généralement. Et puis c'est toujours ce qui garantit l'indépendance de ces logiciels-là. Et puis à la fin, eh bien, les libertés qui sont garanties pour les utilisateurs. Donc, ouais, tout à fait. C'est le fait de soutenir tout un modèle. Voilà, donc on a fait toute une liste de choses à faire. Il y en a sûrement d'autres que l'on a oubliées, mais voilà déjà de quoi bien commencer. Alors, ce qui existe également, c'est un moyen, une organisation pour commencer ou continuer à contribuer collectivement. Tobias, dis-moi, comment s'appelle justement ce genre d'événement qui permet de mettre la main à la pâte, à la contribution?
Bah, c'est un nom extrêmement bien trouvé et très très intelligent parce que ça s'appelle des contrib ateliers. Je pense que la dénomination est relativement claire. Et en fait, c'est parti du constat que même si on a de la bonne volonté pour contribuer, en fait, très souvent, on ne sait pas par où commencer parce qu'il y a plein de plateformes différentes, il y a plein de logiciels différents, il y a plein d'initiatives différentes. Et en plus, malheureusement, on n'a pas une manière unifiée de contribuer à chaque logiciel. C'est-à-dire qu'on va passer du temps à apprendre comment contribuer à chaque fois. Et donc, c'est assez complexe et ça représente une marche pour commencer la contribution qui est assez haute. Du coup, l'idée derrière les contre-ateliers, c'est de se dire, il y a un certain nombre de personnes qui sont déjà contributeurs à ce genre de projet et qui ont déjà acquis cette expérience. Et donc, ces personnes-là vont proposer à tout un chacun de venir et de passer une demi-journée, un matin, une après-midi, plus si on a envie, pour discuter des différentes possibilités de contribution et ensuite de discuter avec chacun sur quelle plateforme logicielle et avec quels moyens ils souhaitent contribuer, de leur expliquer comment ça fonctionne, de les former, de les choses pour et ensuite de leur faire une petite contribution simple dans la demi-journée là, mais surtout que la personne ensuite, en repartant, Bah, non seulement elle aura déjà contribué, ce qui est quand même très valorisant, parce qu'on se dit, ok, j'ai passé 4 heures cet après-midi et j'ai amélioré la traduction de 2 articles, j'ai amélioré la cartographie là-bas, j'ai rajouté une petite fonctionnalité ici, j'ai trié des rapports là-bas, et en plus, elle sera en mesure de le faire elle-même ou une autre fois plus facilement.
Ok,
Donc.
ouais, super. Et donc, en fait, ça, c'est donc tout le monde peut y aller. Ça, c'est ouvert à tous, même si on a absolument zéro compétence dans le logiciel en question.
Exactement. C'est l'idée, c'est vraiment que ce soit ouvert à tous. Et si après on a quelques compétences et qu'on veut en organiser, donc l'initiative de ces contrib-ateliers est en fait sous cette forme-là est à l'initiative de Framasoft. Et Framasoft, comme à chaque fois qu'ils essayent de faire quelque chose, ils ont donc un wiki qui est dédié à l'organisation, à leur retour d'expérience, qui vous permettront d'organiser plus facilement ces contrib-ateliers. Parce que de même que contribuer à un logiciel, c'est quelque chose qui s'apprend pour que le contrib-atelier soit vraiment bien apprécié par tous et qu'il fonctionne.
Ouais, super, d'accord. Donc, ouais, l'essaimage des contributeurs est facilité hein, énormément par Framasoft. T'as raison, c'est ça. Il y a un kit contributeurs. Enfin, on vous mettra également le lien justement du site des contributeurs. Mais il y a énormément de ressources et puis une Framateam également qui est dédiée à ça pour faciliter le plus possible la prise en main de l'organisation et permettre à tout le monde de le faire. D'ailleurs, Picassoft en est organisé un contributeurs. Hein, c'était concentré sur la contribution à OpenStreetMap. StreetMap, j'y arrivais, en juin de l'année dernière. Et puis après, il existe aussi, comme tu le disais bien, des contributeurs qui permettent de choisir ce sur quoi on veut contribuer. Ce sont souvent des confinatimes qui sont organisés en plusieurs pôles. Et Framasoft avait même organisé, pendant cette période de confinement, deux confinateliers, le 25 avril et puis le 6 juin dernier, qui a réuni énormément de participants, hein, 86 participants sur le premier, donc dans 111 salons en simultané, etc. Donc mené par 13 animateurs, animatrices. Enfin, ça avait eu vraiment beaucoup de succès. Et puis, comme tu le dis très bien, Tobias, c'est valorisant pour tout le monde à la fin. Alors, si vous souhaitez vous tenir au courant justement des prochains contributeurs et puis des événements qui sont organisés plus généralement par la communauté Libriste, près de chez vous ou alors plutôt en visio pour l'instant, eh bien, on vous invite également à consulter l'agenda du libre, agendadulibre.org. Vous pourrez trouver justement toutes les dates des prochains événements qui permettent de faire toutes ces activités sympas en groupe. Eh bien, écoutez, je crois que c'est l'heure du quiz qui veut le lancer.
Alors, donc c'est l'heure du quiz. La question d'aujourd'hui, ça porte sur les contributions au Wikipédia français. Donc en mai 2020, il y a environ 1,084,785,000 pages qui ont été consultées sur le Wikipédia français. Et donc la question c'est, à votre avis, quel est le nombre de contributeurs, c'est-à-dire de personnes ayant apporté une ou plusieurs modifications aux pages francophones de Wikipédia? Combien de contributeurs sur les pages francophones de Wikipédia sur le même mois de mai? Donc, il y a quatre réponses possibles. La première serait 640 contributeurs, sinon 6 400 contributeurs, ou encore 64 000 contributeurs, ou enfin 640 000 contributeurs. Et donc, on annoncera la réponse après la musique.
Ok, merci Romain. Ben, on verra quel ordre de grandeur on a de nombre de contributeurs par rapport à ce nombre immense d'utilisation de Wikipédia. La musique aujourd'hui, ça va être Redeye de Belgarma. C'est en licence CC BY NC SA et on se retrouve tout de suite après pour la réponse au quiz.
Qui la serre des visages imaginaires réveillés.
retour dans La Voix est libre. Donc on vient d'écouter Réveil de Del Garma sous licence CC BY NC SA. Et donc c'est maintenant l'heure de la réponse au quiz. Donc il y a environ 64 000 contributeurs sur le mois de mai. Exactement, il y en a 63 945 et ce sont des chiffres qui sont tirés de stats.wikipedia.org. Et parmi ces contributeurs, il y en a environ 7 000, donc 6 974, qui sont considérés comme des contributeurs actifs, c'est-à-dire qu'ils ont apporté au moins sa contribution aux pages francophones de Wikipédia.
Ok, bah merci beaucoup Romain. Comme on voit finalement, le nombre de contributeurs est vraiment réduit comparé au nombre de visites. Et c'est une des possibilités du logiciel libre, du fait que tout le monde puisse contribuer. Y a pas besoin et que la ressource soit commune. Du fait de tout centraliser, ça permet d'avoir vraiment énormément de connaissances avec finalement un nombre relativement réduit de contributeurs. Et donc, on va vous rappeler rapidement les différentes manières qu'on vous a proposées durant cette émission pour contribuer. Donc, la première, c'était évidemment tout simplement d'utiliser vous-même les logiciels libres plutôt que d'utiliser un logiciel privateur. La deuxième option, ça va être tout simplement d'en parler, d'en discuter, d'en faire un petit peu la promotion, de proposer aux personnes que vous connaissez de les utiliser eux-mêmes. Ensuite, vous pouvez utiliser le logiciel et faire des tests, puisque l'avantage c'est que vous avez un pouvoir d'action sur le logiciel et donc vous avez tout intérêt à remonter des bugs, à remonter des fonctionnements un peu bizarres pour que ceci puisse être connu et corrigé peut-être. Vous pouvez ensuite profiter des nombreuses plateformes de contenu type Wikipédia, OpenStreetMap, Framalibre, pour contribuer sur ces plateformes ou alors juste produire du contenu sous licence libre, pas forcément sur ce genre de plateforme, mais du coup essayer de le faire sous licence libre. Vous pouvez retranscrire des émissions ou ben, tout type de contenu audio ou vidéo pour que ceci soit plus accessible et mieux référencé sur Internet. Vous pouvez bien entendu traduire que ce soit les logiciels ou les contenus. Vous pouvez ensuite échanger et proposer votre aide à la communauté, donc pour répondre à des questions si vous connaissez des choses. Vous pouvez ensuite participer, quand vous avez des connaissances supplémentaires, à la documentation du service ou du logiciel que vous utilisez. Et ensuite, d'un point de vue plus proche du code, vous pouvez proposer des nouvelles icônes, des nouvelles interfaces du logiciel. Et vous pouvez proposer de trier les différents rapports de bugs et les choses comme ça pour que les personnes qui ont les compétences pour agir dessus puissent plus facilement les trouver. Et vous pouvez bien sûr contribuer au développement du logiciel directement en écrivant des nouvelles fonctionnalités, en améliorant la configuration du projet, les tests, un peu tout ça. Vous pouvez aussi naturellement soutenir financièrement ces projets parce que même si ils sont disponibles gratuitement, il n'empêche qu'ils ont été payés à un moment ou à un autre, que ce soit par du travail bénévole ou par d'autres personnes qui ont contribué financièrement. Et donc, vous pouvez estimer que vous avez les moyens de contribuer aussi à ces logiciels.
Merci beaucoup, Tobias. Voilà tout ce dans quoi vous pouvez partir si vous en avez envie. Vous retrouvez une bonne partie de ces éléments donc sur la page Comment contribuer de Funkwhale. Donc c'est sur le site contribute.funkwhale.audio. On vous donne aussi le lien, bien sûr, des Contribateliers. Donc Contribateliers, tout attaché, contribateliers.org. Pour en organiser, on vous invite à aller sur le wiki de Framasoft, donc wiki.framasoft.org, et puis l'agenda du libre aussi, agendadulibre.toutattaché.org. On vous mettra tout ça, bien sûr, sur le site de La Voix est libre, radio.picassoft.net. Romain, Tobias, merci beaucoup pour cette émission aujourd'hui.
Ah bah merci Audrey, à vous.
Et à la prochaine, bonne journée à vous.
Bonne
À la
journée.
prochaine.
Salut!